Eh oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en direct du comité Maïga pour les échos du Grand Saint-Barthélemy sur Radio Galère 88.4 FM et en DAB+. Et en ligne, vous pouvez aussi suivre sur radiogalère.org. Pour nous joindre, le numéro de téléphone de 07 49 53 87 44. À l'animation, il y a Guy qui est à côté de moi. Bonjour Guy.
Bonjour à tous.
Et moi Jean-Marc. À la technique, notre fidèle ami et collègue Sidi Diallo. Merci Sidi d'être toujours là, aussi professionnel. Et à la réalisation, nous avons Saïda, notre chroniqueuse en charge des communiqués. Bonjour Saïda.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de notre passage de mémoire, Karima Berich, dont l'absence s'est vivement fait ressentir. Nous espérons qu'elle pourra très bientôt reprendre toute sa place dans les échos du Grand Saint-Barthélemy, afin de continuer à éclairer le présent à la lumière de l'histoire de notre territoire. Aujourd'hui, justement, nous vous proposons d'aborder la situation d'une copropriété en grande difficulté, si ce n'est pas en très grande difficulté aujourd'hui, qui c'est la copropriété du Maï, qui est située dans le Grand Saint-Barthélemy, une réalité malheureusement partagée par de nombreux ensembles immobiliers à Marseille. Parce que ce n'est pas tout seul, entre la Morolette, les Rosiers, etc. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va souffrir une première pause musicale. Et aujourd'hui, elle a une saveur toute particulière, n'est-ce pas Saïda?
Un immense clin d'œil à notre animateur et ami Gary, qui vient de devenir papa pour la première fois. Félicitations à lui et à la maman. On va écouter maintenant un morceau de Terry Moïse, « Je serai là ». Une chanson qui parle de présence, de promesse, de ce lien invisible mais essentiel. Des mots qui résonnent particulièrement aujourd'hui. Parce qu'accueillir un enfant, c'est aussi promettre d'être là. Dans les premiers jours, les premières nuits, les premiers pas. Et bien au-delà. Alors, on dédie ce morceau à la petite fille de Gary, ainsi qu'à tous les bébés qui viennent de naître à Marseille et ailleurs.
Musique, merci Sidi.
Sera de t'offrir une vie idéale sans peine et
donc les échos avec vous sur 88.4 FM et un de plus sur Radio Galère. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier qu'on préfère souvent laisser dans l'ombre, mais qu'on ne peut plus taire. Le mail copropriété en crise, chronique d'un abandon urbain, parole d'habitants oubliés. Parce que derrière ces mots, il y a des réalités dures. Des familles, des parcours de vie, des colères, mais aussi des résistances. Et trop longtemps, ces voix ont été ignorées. Pour en parler, nous avons quatre invités. S'ils sont là avec nous, ils vont se présenter tour à tour. Comme nous sommes d'une autre génération, nous allons démarrer par les dames. Parce que maintenant, avec la parité, tout ce que nous risquons, MeToo et autres, nous préférons dire. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Et le micro, Anne-Marie, s'il te plaît. C'est bien loué.
Bonjour.
Tu peux te présenter en même temps,
hein? Alors, je m'appelle Anne-Marie Tagawa, j'ai été pendant très longtemps éducatrice de rue sur ce territoire, et à ce titre, j'ai rencontré à l'époque beaucoup de familles, et de jeunes surtout, du Mail. Je suis depuis mon départ à la retraite, depuis 2015, restée bénévole sur le quartier dans lequel auquel je suis très attachée. Et je suis administratrice au Centre Social Agora, mais je suis aussi animatrice du groupe de veille qui regroupe des acteurs institutionnels, enfin surtout des acteurs associatifs et des habitants, et qui travaillent sur les problématiques du territoire, le Mail étant actuellement notre première préoccupation. Voilà, on y reviendra.
Ok. Mmh. Bonjour.
Bonjour.
Amel.
Oui, bonjour, c'est Amel. J'étais habitante du Mail depuis quelques années, depuis 1982. Je suis habitante du Mail. J'étais bénévole aussi dans les associations. J'ai travaillé avec Sheba pendant 3 ans. Et là, maintenant, je suis présidente d'une association, le Mail, les habitants du Mail. Et en même temps bénévole avec l'association, le groupe de veille.
Donc copropriétaire aussi.
C'est copropriété dégradée.
Copropriétaire habitante.
Non. Habitante. Oui, non, habitante. Non, je ne suis pas copropriétaire. J'étais copropriétaire.
Ah, d'accord.
Et là, j'ai vendu, okay. Je suis que locataire.
D'accord, ok. Alors, un nouveau venu parmi nous, mais nous sommes heureux de l'accueillir, n'est-ce pas? Bonjour Yannick.
Bonjour. Donc, moi, je suis simplement un copropriétaire du Mail. Depuis 1982, et je fais partie d'aucune association, mais je viens juste pour discuter avec vous.
Pour échanger, effectivement, mais c'est important que l'on puisse le faire avec un propriétaire qui est du Mail. Alors, nous poursuivons avec Jean-Michel Perroutet, que nous ne devrions plus présenter à l'instar d'Anne-Marie, mais fais-le pour les
Moi,
auditeurs.
Moi, je ne suis pas du Mail, j'habite donc la Busserine, ce quartier, depuis 45 ans. Je suis administrateur à l'Agora, comme Anne-Marie, et puis membre du groupe de veille. Donc le groupe de veille, en deux mots, c'est un collectif d'habitants et d'associations. On essaye d'assurer une espèce de veille sociale sur ce quartier. Donc on essaye de repérer tout ce qui dysfonctionne, et on essaye d'alerter les autorités, de réfléchir nous-mêmes d'abord, de proposer des solutions à notre niveau, et puis alerter les institutions.
Et oui, effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir le faire. Groupe de veille auquel le comité Mamega aussi participe, ainsi qu'au conseil d'administration du centre social Agora. Alors, Anne-Marie, tu avais le micro, tu vas le garder. Alors, pour que l'on puisse arriver à décrire un peu dans quel contexte le Mail est, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le Grand Saint-Barthélemy, combien de propriétés ou non-propriétés, des logements, etc., des quartiers qui composent ce Grand Saint-Barthélemy, d'une part. D'autre part, comme cela a été qualifié de quartier prioritaire de la ville, qu'est-ce que cela signifie pour les auditeurs et auditrices, pour qu'ils puissent saisir un peu dans quel contexte le Mail évolue.
Alors, le Grand Saint-Barthélemy, il a été dénommé ainsi dans les années 80, et ça a été au départ une dénomination, j'allais dire, presque cooptée localement entre les institutions et les acteurs associatifs, avant que ça devienne vraiment une dénomination officielle. Avant, on parlait de la ZUP numéro 1, pour les plus vieux de ce quartier, la ZUP numéro 1 regroupait déjà les cités Flamand-Iris, Le mail au Mandazuc n'existait pas encore, si je me rappelle bien. Bucerine, Saint-Barthélemy, Fontvert et Picon. Le terme a été extrêmement important dans les années 80 parce qu'il y a eu la mise en place dans ces années-là. C'était des grands ensembles, toutes ces cités, avec énormément de familles qui vivaient là. Des bailleurs sociaux différents, puisqu'à l'époque on avait la SIC, HMP, l'OGIREM. Et 13 habitats, enfin l'OPAC à l'époque, sur les Flamands, et que ces bailleurs se sont pour certains regroupés, mais à l'époque il y avait des politiques publiques qui se mettaient en place de façon très très volontariste, avec la mise en place du développement social des quartiers, puis ensuite du développement social urbain, et ensuite aujourd'hui de la politique de la ville, qui visait à réduire les inégalités, en fait, c'était ça l'objectif. Réduire les inégalités entre des quartiers dans les villes qui étaient moins dotés que d'autres, où il y avait une question de paupérisation, d'échecs scolaires qui grandissaient, de dégradation du bâti, donc de questions de voirie, de transport, etc. Puisque dans ces époques-là, par exemple, et le comité le sait plus que d'autres, il n'y avait pas de transport qui passait à la Bucerine.
Tout à fait.
Il y a une lutte emblématique qui s'est mise en place pour qu'il y ait un bus. Et je pense qu'il y a des photos dans vos archives,
oui,
d'ailleurs,
oui,
du premier bus qui passait à l'époque. Et donc, ça a toujours été un territoire d'action, de lutte, et aussi un territoire emblématique du point de vue associatif. C'est-à-dire qu'on a eu, dans une période, dans les années 80, plus de 20 ou 25 associations qui se répartissaient sur l'ensemble du territoire. Qui des associations de jeunes, culturelles, sportives... voilà, Sheba est né dans cette période-là, le comité peut-être un peu plus tard,
oui,
Audi-en-Soul à peu près dans la même période, les clubs de foot, voilà, de nombreuses associations ont vu le jour et avaient pour objectif de créer une action sur le territoire, mais aussi de se battre collectivement contre toutes les formes d'inégalité. Voilà, petite anecdote, moi je vis à Picon en 74 au 15e étage de la tour A qui a été démolie depuis. Et j'avais un époux qui avait des problèmes de santé à ce moment-là, d'angine, répétition, etc. Et une jeune fille que je connaissais très bien venait d'acheter au mail. Qui a donc, d'après ce que disait tout à l'heure Yannick, est née en 73. Et elle faisait que nous dire, mais dis à Jean-Louis de venir faire sa convalescence au mail, tu vas voir, c'est lumineux, il y a du soleil partout, il y a de la végétation partout. Et du coup, Jean-Louis était allé se réfugier chez elle pendant une dizaine de jours pour refaire sa convalescence. Pour vous dire combien cette résidence était considérée comme étant un haut lieu de verdure, de soleil, de qualité de vie. Voilà. Et du coup, on va voir comment les choses se sont dégradées petit à petit. Mais du coup, le mail a été intégré. C'est la seule copropriété qui est sur ce territoire du Grand Saint-Barthélemy, avec plus de 400 logements. C'est la seule... Le mail est intégré au territoire du Grand Saint-Barthélemy.
Est-ce que cela signifie que quand on parle de quartier prioritaire, le mail est-elle inscrite dans le cadre des quartiers prioritaires? Et qu'est-ce que ça signifie d'une part? D'autre part, être inscrit dans ce institutionnellement, la question se pose, est-ce qu'il y a une appropriation de ce vocable, de cette notion, par les habitants? Qu'est-ce que vous en pensez ou pas? Ça me semble être important de pouvoir répondre, ou bien est-ce que s'il y a une question de stigmatisation, de dire nous sommes là et que cela stigmatise, Jean-Michel qui est là aussi peut participer et répondre peut-être à la question. Le quartier prioritaire de la ville, qu'est-ce que cela veut dire d'abord?
Peut-être Anne-Marie, tu pourrais dire...
Sur la notion de quartier prioritaire,
ouais.
C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire pour être assez simple, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est attribuer des fonds publics et valoriser ou valider des actions qui vont permettre de réduire les inégalités entre des territoires. Donc le Grand Saint-Barthélemy, historiquement, a toujours fait partie des territoires concernés par ces politiques-là. Ce qu'on a appelé à un moment donné, les territoires, les politiques anti-discrimination, mais ça a un nom particulier qui m'échappe là tout de suite, et qui a fait l'objet après de polémiques et de beaucoup de débats au niveau politique. Est-ce qu'il faut continuer à financer ces quartiers alors que ça évolue pas? Est-ce qu'il faut enlever tous les financements? Et il y a eu cette volonté de distribution, mais aussi de valorisation de certains, je pense à des dispositifs comme la mission locale, tout ce qui a été aussi au niveau culturel, c'était fait ici parce qu'il fallait absolument développer des choses qui soient un plus pour les habitants et qui réduisent les inégalités. Après, la question du mail, je préférais laisser la parole aux autres collègues, oui, pour répartir un peu, mais moi, d'accord, je trouve que c'est un quartier qui est mis à part. Il faut se battre sans arrêt pour qu'il soit dedans, en fait.
Mmh. Oui, pour le quartier prioritaire de la ville, ils prennent en compte le quotient de précarité aussi. C'est ce qui est important. Oui. C'est ce concept aussi qui est pris en compte.
On a commencé, je crois, à parler un peu des problématiques liées au mail en 2020. Les premières alertes sont venues à travers une association qui s'appelait AAMA, qui était une association de femmes, plutôt de femmes comoriennes, avec Henriette Saïd comme figure de proue. Et c'est elle, et puis cette association-là qui a un peu alerté tout le monde, et le groupe de veille, entre autres, pour rappeler aux institutions, voilà, que le mail existe et que le mail était en grande déshérence, quoi. C'est à l'origine, c'est ouais.
Compte tenu de la situation de mail, je vais laisser Guy aussi poser une question, parce qu'a priori il devrait y avoir une commission qui a été créée, commission mail.
Oui, donc la question se pose donc à Jean-Michel. En quoi consiste la commission mail et concrètement, elle sert à quoi?
Alors, la commission du mail, elle a été mise en place par la préfecture dans les années 2020, peut-être. Alors, c'était une rencontre pour une rencontre qui comprenait donc les institutions, la métropole, la ville, des agences comme l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, la préfecture, la préfète déléguée à l'égalité des chances. Et puis quelques habitants du mail, des habitants du mail, des représentants d'associations du mail, et puis deux membres du groupe de veille. Donc moi j'y étais, Amel a fait partie aussi de cette commission. Et ça a débouché sur quoi? Ça a débouché sur ce qu'on appelle un plan de sauvegarde. C'est-à-dire un plan de réhabilitation des travaux urgents à faire au niveau des ascenseurs, entre autres la chaufferie. Voilà, il a été déboursé, je sais pas, l'État a déboursé plusieurs millions d'euros, je pense.
Ils n'ont pas encore déboursé. L'État n'a pas encore déboursé. Ils ont payé pour l'instant la réparation de la chaufferie. Ouais. Pour l'instant, ça s'est arrêté là. Après, il y a eu sur des ascenseurs aussi.
Le A et le B.
Voilà, sur le A et le B qui ont été refaits. Voilà. Après, il y avait un budget de 4 millions et quelques qui avait été prévu par la Cité-Métrie. Ouais. Mais à l'heure actuelle, on est toujours à la recherche d'entreprises pour certains trucs. Quoi. On a encore des visites d'architectes pour ça. Mais enfin, bon, ce qui a été fait concrètement, c'est la réparation de la chaufferie. Mais ce n'est pas quelque chose de pérenne. Hein. C'est-à-dire que la réparation, c'est juste pour qu'on puisse avoir du chauffage l'hiver.
Et l'eau chaude.
À aujourd'hui. Et un petit peu les ascenseurs, c'est-à-dire certains trucs qui ont été faits sur les ascenseurs. Certaines réparations qui ont été faites sur les ascenseurs et le changement des ascenseurs du bâtiment A et bâtiment B, parce que c'était devenu quelque chose de très, très, très important. Voilà, ça c'est pour le plan de sauvegarde. Derrière le plan de sauvegarde, il y a un plan hors coding maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un double... Il y a un doublon. Le plan de sauvegarde reste toujours. Le plan de sauvegarde reste toujours donc vivant, mais il y a ce hors-coding. Alors là, pour lequel on ne sait rien. C'est-à-dire que, en tant que copropriétaire habitant, je ne sais absolument pas quel sera mon avenir dans quelques années, puisque c'est un plan, le Orcodine, qui a commencé en 2018 ou 2019 et qui finira en 2037. Entre-temps...
En fait, des plans de sauvegarde, il y en a eu deux.
Et c'est le deuxième, le plan de sauvegarde.
Il y en a eu un
en 2010 ou 2011. Ouais, ouais, voilà, ça c'était le premier, où ils ont refait quand même pas mal de boulot.
C'est ça.
Et là, c'est le deuxième, puisque de toute façon, ça s'est dégradé. En 10 ans, ça s'est dégradé, effectivement. Le boulot n'a pas été fait correctement, parce que de toute façon, on nous a changé toutes les bus... Toutes les portes, les fenêtres, mais soi-disant, on nous a mis donc du double vitrage qui ne sert absolument à rien. C'est une passoire thermique, mais alors une véritable passoire thermique, c'est-à-dire ça n'a servi à rien. C'est beaucoup plus joli,
mais c'est pas efficace du tout.
Voilà, entre autres, après, bon, ben voilà, ce qui a été, le travail qui a été fait, ça a amélioré les choses, puisqu'on nous a refait quand même pas mal de trucs. Mais ce qui était le plus important, en fait, à faire, c'est-à-dire...
Pas les ascenseurs,
mais il y avait pour éviter que ce soit une passoire thermique, il fallait faire pas mal de travaux sur la toiture, sur les façades. Tout ça, ça n'a pas été fait. On a fait du replâtrage. On a refait un petit peu le truc pour dire, voilà, c'est plus joli, mais rien n'a été fait. Bon, après, ça... On ne peut rien y faire, c'est un plan de sauvegarde. On n'a pas été spécialement consulté en tant que copropriétaire, ou peut-être qu'on a été consulté, en fait, j'en sais rien. Mais donc, les architectes ont fait ce qu'ils ont voulu. Je sais qu'il y a eu des procès, même avec les architectes, parce qu'ils ont fait du mauvais boulot. Mais bon, après, l'argent avait été dépensé et on ne pouvait pas revenir en arrière. Voilà.
Mais le plan de sauvegarde, c'est vraiment du replâtrage, parce que si vous voyez l'état de quelques bâtiments, entre autres le bâtiment A et le bâtiment B, mais c'est...
Oui, mais c'est des bâtiments... Alors, excusez-moi, mais c'est des bâtiments qui sont quand même colonisés par les réseaux.
Mais nous reviendrons là-dessus, parce que je pense que c'est important que l'on puisse en parler, et peut-être que juste pour terminer avec la commission de Meuil, qui c'est qui participe? Alors, et d'une part, s'il y a des habitants, est-ce qu'au sein de cette commission, pense-t-on que les membres qui participent à cette commission sont-ils réellement écoutés? Quelle est la valeur de leur parole au sein de cette commission, puisque vous êtes en direct avec les institutionnels?
Si je peux parler, il y a deux choses différentes. Il y a une commission du MAI du groupe de veille. C'est-à-dire que nous, sur des thématiques particulières, ça a été le cas de la crèche de l'œuf, de la plaine des loisirs, et là... du MAI, on crée un groupe de travail, parce que quand on fait les réunions et qu'on est une trentaine ou cinq personnes, que pas tout le monde se sent forcément en capacité ou concerné, même si c'est important que tout le monde ait l'information, on fait des commissions de travail pour essayer d'aller jusqu'au bout d'un dossier, c'est-à-dire comprendre, analyser, etc., et être du coup crédible devant les pouvoirs publics. Donc ça, c'est au sein du groupe de veille. Et ensuite, il y a la commission, alors ils appellent pas ça une commission, le groupe de travail du MAI, qui est Jean-Michel disait tout à l'heure, il y a un représentant de la ville de Marseille, mais je parle le niveau de représentation là, il est technique. C'est pas des responsables, c'est-à-dire il y a un représentant de la ville de Marseille, il y a un représentant de la métropole, il y a notre délégué
Fabienne.
Les membres du groupe de veille qui sont régulièrement, comme Jean-Michel et moi, et puis des habitants. D'habituellement, il y a Saïda et Amel. Et là, on se pose depuis quelque temps le fait de faire venir justement Yannick. Parce qu'à la fois, il a une bonne connaissance du territoire et en même temps, c'est bien qu'il y ait un maximum de personnes qui soient concernées, en fait. Ce groupe, on y dit, il y a un problème. Alors, les problèmes d'ascenseurs sont permanents. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait des médiateurs. Les médiateurs de la régie qui sont présents sur le MAI, on peut le dire, et qui renvoient un bon niveau d'alerte sur chaque problème qui peut se poser. Et notamment, à la fois quand il y a des questions d'insécurité, des problèmes liés à la question du réseau à proximité de l'école, la question des ascenseurs qui est récurrente, et tout l'impact que ça a auprès des habitants, et comment on peut y apporter des réponses, entre guillemets. La question de la chaufferie, la question de l'eau chaude, de l'eau froide, enfin, toutes ces questions, on alerte dans ce groupe pour qu'il y ait des solutions qui soient apportées. Et c'est très problématique parce que il y a pas de solution durable. Enfin, Amel en parlerait plus que moi, mais qui sont apportées et il y a un peu une espèce de saturation. Aujourd'hui, c'est notre interlocuteur, c'est Fabienne Béné.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, chaque fois, c'est Fabienne, fait quelque chose.
Pour l'ensemble des associations et des acteurs du territoire, c'est Fabienne. Hein.
Et l'autre jour, on lui a dit, tu ne peux pas continuer à faire ça. Bon,
qui est investi. Dans le quartier, on a, par exemple, la mairie. Il y a des, le trottoir, il y a des trottoirs, c'est de la mairie. Il y a les encombrants et la poubelle, c'est la métropole. Oui, mais moi, je sais personnellement, quand je les appelle, il n'y a personne. Ben je contacte directement, je ne me casse plus la tête, j'appelle directement Fabienne.
Oui, elle est omniprésente.
Fabienne, et nuit de jour, c'est
Fabienne.
Il y a un problème à tel endroit, du coup, elle dit, ben je m'en occupe, et souvent, et la plupart du temps, elle s'en occupe.
Elle s'en occupe.
Et derrière, il y a oui ou non une réponse, mais en tous les cas, c'est elle qui devient... Et je trouve qu'il faut qu'on trouve d'autres façons de construire nos actions. Oui, c'est-à-dire qu'on soit en capacité... d'avoir des stratégies plus offensives et de ne pas, on va dire, nommer quelqu'un comme responsable de toutes les, tous les maux voilà, dans la copro.
Avant de faire une seconde pause musicale et évacuer un sujet qui est celui de la rénovation urbaine, quel est le lien entre la rénovation urbaine et ce dont on parle aujourd'hui du sujet de Maï? Donc ça serait bien parce que le ministre, le Premier ministre est passé à Marseille, il était là récemment, où il a parlé du logement de Marseille, et il a commencé à entrevoir déjà le troisième plan de rénovation urbaine. Alors est-ce que l'on peut dire très rapidement quel est le bilan que l'on peut faire des deux premières rénovations urbaines où nous passons le sujet pour dire que rien de particulier à souligner, sauf qu'il y a un troisième.
Mais je peux dire, il y a une chose, je ne sais pas, c'est sur le site du comité Mamega, vous avez un livre blanc qui est un bilan de la première rénovation urbaine des années 2000, qui est absolument remarquable. Ce serait intéressant de jeter un coup d'œil sur ce bilan-là.
Tout à fait.
Mais il y a, sur la rénovation urbaine, et ça a été dit à plusieurs reprises dans des réunions, il y a deux lieux qui ont été, je dirais, un peu mis à l'écart. C'est le Mail et Fontvert à une époque. Fontvert, ils se sont battus pour être repris en compte, mais ils disaient tout le temps, mais nous, on est les parents pauvres. On n'a rien prévu chez nous. Alors maintenant, ça s'accélère un peu plus, mais le cœur du Grand Saint-Barthélemy était beaucoup plus concerné que ces périmètres-là autour. Après, quand tu poses la question du lien avec la rénovation urbaine, déjà, et je pense que mes collègues ne me contrediront pas, on ne voit pas le lien entre les plans de sauvegarde, les deux, et hors-code. On dirait des dispositifs.
Voilà, c'est des doubles emplois, en fait, de compte.
C'était mille feuilles, quoi.
C'est, voilà, parce que le plan de sauvegarde, il a été effectivement... accordé. L'ANA a accordé 4 millions, je crois, ou un truc dans ce style-là. Sur ces accords, donc, comme j'ai dit, on a travaillé sur la chaufferie pour éviter qu'on n'ait pas de chauffage et d'eau chaude pendant une certaine période. Un peu sur les ascenseurs aussi. Mais ça s'est arrêté là. Pour l'instant, de toute façon, ça s'est arrêté là. On ne sait pas exactement quels vont être ce qui va être fait avec les 3 millions qui restent, quoi. Et là, quand on parle de
rénovation
urbaine, y a un truc que j'arrive pas à comprendre, parce qu'on nous a presque dit, mais on peut raser le quartier et le refaire en totalité. Voilà ce que c'est la rénovation urbaine. C'est raser le quartier et le refaire en totalité. Parce que là, il n'y a pas 4 millions qui ont été débloqués. Il y a 671 millions sur les 4 propriétés qui vont être débloquées. 671 millions, ça ne se trouve pas sous le chapeau d'un cheval. Et deux, qu'est-ce qu'on va en faire de ces 671 millions? Parce que pour l'instant, on ne sait rien. On ne sait pas du tout ce que le plan hors code va donner. On ne sait pas si on va être exproprié, si on va garder nos appartements, s'il y a des immeubles qui vont être détruits. On ne sait absolument rien. On nous dit, attendez que le maire se mette en place et tout. Et on vous dira. D'ailleurs, on a eu des réunions à la préfecture à plusieurs reprises qui nous avaient dit au mois d'avril, je ferai une réunion parce que je pense que j'en serai plus.
On entend.
Aujourd'hui, il n'y a pas eu de réunion parce que certainement.
Pas de nouvelles.
Parce que, attention, C'est quelqu'un qui, la personne qu'on a à la préfecture, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et qui a l'air de vraiment vouloir s'occuper de nos problèmes. Sauf qu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de. Alors, ces 671 millions, ils se baladent quelque part sans qu'on sache, nous, ce qu'on va devenir. Nous, en tant que copropriétaires habitants, ou pas habitants d'ailleurs, en tant que copropriétaires du mail. Simplement, on nous a quand même dit, on peut raser des immeubles, lesquels on ne sait pas, on peut réduire des immeubles, lesquels les on ne sait pas, on peut vendre les immeubles à un bailleur social, et dans ces cas-là, on vous rachètera votre appartement à un prix qu'on a décidé. Et dans ces cas-là, si vous voulez rester, vous deviendrez locataire de votre propre appartement. Enfin, ça me paraît aberrant, quoi. C'est une aberration. Mais tout ça, c'est dans un flou artistique terrible. Et 2037 ou 2039,
on sera mort.
Hein.
Oui. On sera là.
On sera mort.
En espérant que Dieu nous préserve vie. Mais bon, n'est-ce pas, Jean-Michel ?
Mais bien sûr. Bon,
donc, ceci étant, nous allons faire une respiration musicale, je vous propose, avec Idir, né quelque part, puisqu'il a repris cette chanson, et j'aime beaucoup, beaucoup. Merci, Sidi.
فريني مولانا كدوان سيدي فروري يونو ريفريني زنقا كيزين باري من ريون داكا لكن هذي بدو تيشلي يلوان دايف كازار يلوان دايف كازار وادي ثمرت انت وانت وادي البري غرار أمض الضيور انتكوات أمض الضيور الأخلا أشفانا ندرن لعشوش مالات الزين دي الغربة زرانا ندز دلان ميلور ونقنارا يلوان داي فرورا يلوان داي فرورا نتروح ونتسوغال ديك ينغم يفراق
في مدنة يلوان يريس ويلس أتريد القواس أكود الدتان واسم تيني واسا في مدنة يلوان يريس ويلس أتريد القواس أكود الدتان
فريني مولانا كذوان سيدي فروري يونو ريفريني زنقان انتي زين الباري هنري يوم دكار اكنا ذي بدو تيكلي لولا غندا لولا غضقي ونمكان اجتيت ذلف نار اذ ستزرغي برداك في مدنا يا الواد يليس ويلاس أتريدي خواق سكتت متى واسمة يلي واسرة في مدنا يا الواد يليس ويلاس أتريدي خواق سكتت متى واسمة يلي واسرة في مدنا يا الواد يليس ويلاس أتريدي خواق سكتت متى
me tiene huellas la fin de me. Y no mis huellas a ti de Juan se meter.
Les Échos en votre compagnie avec nos invités Anne-Marie, Saïda, Amel et Jean-Michel sur les ondes et Yannick et sur les ondes de Radio Galère en DAB+. Nous allons poursuivre notre émission en nous en rendant avec nos invités au cœur de la copropriété du Mail. Et inévitablement, en retour, un retour en arrière s'impose. Alors, qui peut effectuer ce retour en arrière pour resituer pour nos auditeurs,
pour situer les questions d'endettement et tout ça? Bon, on va dire facilement, d'ailleurs c'est le cas de la plupart des copros qui existent dégradés, c'est qu'il y a eu une très mauvaise gestion des syndics successivement. D'ailleurs aujourd'hui j'ai vu un appel sur du collectif du 5 novembre, dont tout le monde voit ce que c'est, après les effondrements de Noailles, ils font un appel en demandant à toutes les structures, tous les habitants qui considèrent qu'ils ont été floués par Foncia, de se signaler, parce que visiblement ils veulent faire une action commune. Ça a l'air d'être un peu le cas aujourd'hui de plusieurs collectifs qui veulent lutter ensemble. Donc chaque syndic a laissé se dégrader des situations de charges et de défauts de paiement de charges, et petit à petit, ben, la nature est hors du vide. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu es propriétaire, tu ne payes pas tes charges, et après tu te dis ça va, c'est une espèce d'impunité qui s'installe.
Mais c'est passé.
Et tu laisses passer, et après ça se cumule, ça grossit, etc. Si on habite dans une copro, ce qui est mon cas, dans les quartiers nord, on sait très bien comment la première étape pour un propriétaire qui ne paye pas ses charges est importante, c'est-à-dire la décision de poursuivre, de rencontrer, de négocier et de poursuivre, elle est importante, parce que tout le monde ne sait pas forcément que si les charges ne sont pas payées, ben ça va concerner à terme tous les autres propriétaires. Et c'est ça qui est... Ben ils s'en foutent. Si tu ne sais pas, c'est...
Oui, ils ne réalisent pas peut-être aussi.
Voilà, voilà, exactement. Alors, l'important, c'est choses.
La somme totale, bon, ben, ça aidera, ça passera. Voilà.
Exactement. Et là, on entend parler de ce problème de dette depuis des années. Là, encore plus maintenant. Mmh. On assiste à des réunions qu'il y a eu en présence de préfets ou autres, où le syndic actuel qui a été nommé par la préfecture, qui s'appelle Aja, renvoie aux propriétaires qui prennent la parole, mais vous, vous avez des dettes et vous prenez la parole, tu vois, ce qui est inadmissible. Ce qui est inadmissible. Et il y a des propriétaires qui, du coup, ont les boules par rapport à ça, etc. Donc il y a un vrai problème qui se dégrade, et au moment où on le prend aujourd'hui, ça fait de je ne sais pas combien d'années, parce qu'il y a eu, Yannick me disait tout à l'heure qu'il y avait eu 3 ou 4 syndics avec Amel entre temps.
Trois. Tu vois, minimum 3.
Donc
3.
Ça a été très mal géré entre temps. Et aujourd'hui, c'est insoluble. Donc la question pour les plans de sauvegarde et pour et hors code, dont Yannick disait qu'on a été réunis en préfecture, ils nous ont fait part d'un calendrier en disant ce calendrier va être mis en place à partir du mois d'avril. On a nous dit dans le groupe de veille, si vous accompagnez pas ce plan, ça va être dramatique, parce que les habitants vivent des choses aujourd'hui. On a reparlé des ascenseurs, de la chaufferie, d'insalubrité, des espaces extérieurs, etc. Si les habitants vivent là-dedans, ils seront à 10 lieues de comprendre ce qu'est le plan hors code. Donc il faut accompagner le plan hors code. Jean-Michel parlait d'une maison du projet, mais avoir un lieu où les gens puissent venir poser leurs questions et avoir des éclaircissements. Et puis après, il y a un truc qui nous choque dans l'explication et la présentation du plan hors code, c'est qu'on se dit que depuis qu'il y a eu le plan de sauvegarde, on nous explique qu'il y a une expertise, en fait, une étude qui est faite par les organismes qui ont été nommés pour évaluer la situation au Mail, de dégradation du bâti, des problèmes des charges, etc. Et à partir de ça, des politiques doivent être mises en place. Là, sur hors code, c'est pareil. On nous dit qu'il va y avoir 6 mois d'études. Alors, on se dit, bon, on n'est pas machiavélique ni complotiste, donc on n'ose pas imaginer qu'il s'agit de financer les copains qui vont faire des études sur le dos des habitants, mais quand même, ça pose problème. Ça pose problème parce que où va ce fric? Comment sont utilisées les études qui sont faites pour mettre en place ces politiques-là? avec toutes les craintes dont parlait Yannick tout à l'heure, et qui sont qu'est-ce qu'on va devenir et à quelle source on va être mangé.
Voilà. Mais aussi, ça vient, des syndics où, qui estiment qu'il y a des priorités. Enfin, je dis ça puisque moi, on a un petit peu des soucis avec le syndic, comme tous les syndics. Déjà, les syndics, quand ils changent tous les ans ou tous les deux ans, c'est mauvais signe. Hein. Voilà. Et là, moi, ce qu'il en est, ce que j'ai entendu, c'est que la priorité était, par exemple, au gaz, pour les chaudières au gaz, etc. Donc, on laisse tomber tout le reste pour pouvoir être à jour, question gaz. Parce que sinon, on se fait couper le gaz et puis il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de... Voilà. Alors, ce changement de priorité, en fait, c'est vrai qu'il faudrait partager, les charges entre consommation et puis charges d'entretien. Voilà, ce qui n'a pas encore été fait. Mais il me semble que le mal vient de là. Et j'entends sur Marseille plusieurs syndics qui ont des soucis comme ça. Bon, on ne citera pas de nom, mais je sais qu'il y a beaucoup de syndics qui...
Mais on était déjà coupés de gaz, nous. Ils nous ont coupé déjà un moment le gaz. Heureusement, on avait le plan de sauvegarde. C'est avec le plan de sauvegarde qu'ils nous ont un petit peu donné un peu d'argent pour le remettre. Sinon, on n'avait ni l'eau chaude, ni on a failli avoir le chauffage. La chaudière qui ne marche pas et le gaz qu'ils ont coupé. Du jour au lendemain, on n'avait rien. Heureusement, on a appelé Fabienne pour savoir. Même les gardiens, ils n'étaient pas au courant. Le syndic, il n'était pas au courant. On a appelé Fabienne, elle a fait des recherches et de là, c'est là qu'elle a su comment ça s'est passé et pourquoi. On avait des dettes de gaz du jour au lendemain.
Mais pour revenir sur la chaudière, de toute façon, c'est qu'une réparation. C'est un bricolage.
Comme
de
les ascenseurs.
900 000 euros. Voilà, c'est un bricolage de 900 000 euros, mais un bricolage qui a fait qu'effectivement, on a du chauffage, on a de l'eau chaude d'une façon régulière, sans plus de les coupures qu'on avait, qui étaient impossibles. Voilà. Mais effectivement, quand on parle de cet argent qui part et qui est distribué d'une façon bizarre. On se demande vraiment, il y a déjà eu, pour le plan de sauvegarde, il y a déjà eu des architectes qui sont passés, qui ont vérifié, qui sont passés dans tous les appartements, ou dans quasiment tous les appartements, pour vérifier l'état des appartements et du reste. Et donc, ils peuvent se servir de cet état des lieux pour ne pas avoir à le refaire encore une deuxième fois, parce que ce n'est pas la même administration qui s'en occupe. Tout cet argent, c'est des millions, parce que 4 millions d'un côté, 671 millions de l'autre, mais c'est quand même des sommes colossales.
Ils nous ont dit que non.
Il y a ce côté, et on ne voit rien venir. C'est ça qui est terrible.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment personne n'a donné l'alerte face à un tel endettement. Comment se fait-il qu'on ait laissé courir des sommes astronomiques? Enfin, je me rappelle ce que l'administrateur judiciaire nous a dit à la dernière rencontre. C'est quand même incroyable. Plus de 2 millions d'euros de dettes fournisseurs, plus de 2 millions d'euros d'impayés des propriétaires. Mais c'est des chiffres astronomiques. Pour 400 logements.
Oui, mais c'est très invendable
après. Eh bien oui. Non mais comment se fait-il qu'on ait laissé courir un tel endettement, que personne n'a donné l'alerte? Pourquoi?
Oui. Effectivement, la question c'est comment est-on arrivé là? Parce qu'au départ, lorsqu'il y a eu la création, il me semble aussi de mail, toutes ces difficultés n'étaient pas notées de cet ordre-là. C'était surtout des propriétaires habitants. Ils sont partis progressivement. Et au fur et à mesure, il y a eu une succession de situations avec certains marchands de sommeil dont on parlait, or, entre autres, etc., etc. Donc, ce qui explique un peu les difficultés d'aujourd'hui, même s'il y a d'autres facteurs qui doivent expliquer aussi là où nous en sommes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de constater que, par exemple, pour que j'ai fait une fouque, qui a été notée comme syndic, que ce soit foncier aussi, ce sont généralement, quand on regarde un peu la situation, comme par hasard, ce sont des syndics qui se sont occupés beaucoup de copropriétés qui étaient en difficulté, que ce soit la amoureux LED, que ce soit les rosiers et autres. Pourquoi trouve-t-on de gros syndics de cet ordre-là qui s'occupent des, surtout des cités, des quartiers, des copropriétés qui sont en difficulté? On peut s'interroger là-dessus.
Ça fait réfléchir, effectivement. On peut se demander, mais c'est peut-être voulu.
Et c'est là où peut-être qu'il y a les sous aussi qui vont aussi. Il y a des sous à gagner.
Il y a certainement des sous à gagner parce que, à mon avis, toutes les charges qu'ils ont pu encaisser, ils se sont payés dessus. Et lorsqu'ils se sont aperçus qu'ils avaient effectué, enfin, ça c'est mon avis, oui, c'est peut-être, mais quand ils sont rentrés dans leur fric, oui, ils nous ont lâchés comme des moins que rien. Ils se sont payés sur la bête, en fait. Mais bon, après, malheureusement, il y a plusieurs trucs, hein, les syndics, les ascensoristes, les trucs comme ça, personne n'a de pouvoir sur eux. Personne n'a de pouvoir sur eux. C'est quand même terrible. Chaque fois, moi, je vois, quand on a un problème d'ascenseur, bon, c'est très bête ce que je vais dire, mais quand on a un problème d'ascenseur, l'administrateur me dit, je les relance. Moi, j'ai signé les papiers, mais ils ne viennent pas. Et Samia Gali, l'autre jour, a dit, elle y était, elle a dit, mais je me demande ce que je fais dans la politique, j'aurais dû créer une société d'ascensoriste. C'est elle qui l'a dit, hein. je ne fais que répéter ces mots.
Oh, ouais.
Voilà, je ne fais que répéter ces mots. Même les politiques ne sont pas capables d'avoir un poids sur eux. Alors, encore moins sur les... Parce que moi, j'ai entendu parler d'une foncia... ou que j'ai filmé Foncia, peu importe, je ne sais plus, il ne voulait pas payer 80 000 euros sur un immeuble. Ils ont dit, mais on ne les payera pas, alors qu'ils devaient les payer. Il a dit, mais faites-nous des procès, on n'en a rien à faire. Ils ont une multitude d'avocats, l'avocat du petit... des petits copropriétaires qu'est-ce qu'ils peuvent contre
pour le faire,
ou alors il faudra avoir un dossier ou beaucoup d'argent, et comme de toute façon on est sur des copropriétés en déficit,
endetté, voilà, on ne vient pas vous chercher.
Moi, juste intervenir en complément sur la question des ascenseurs, parce que c'est un problème qui taraude toutes les copropriétés très dégradées, et où on laisse en toute impunité, pendant des mois, les habitants d'un immeuble vivre sans pouvoir descendre, alors ça a l'air de rien, mais les écoles reconnaissent que c'est des périodes du coup où les enfants vont moins à l'école, les questions d'insalubrité, les questions de les courses, les mamans qui descendent avec les poussettes dans la cage escalier, enfin bon, tout est non seulement compliqué, mais inhumain et indigne. Et donc, un des points sur lesquels on a demandé des explications, notamment le jour où Mme Gali était là, en présence du ministre, sur ces questions des ascensoristes. Alors, on nous dit, c'est une société allemande, il y a des problèmes de pièces, et c'est ce qui se pose apparemment dans plein endroit. Donc, il n'y a pas de stock de pièces. C'est comme ça. Et du coup, il faut les commander. Et du coup, c'est très long. Donc, sur certains bâtiments au Mail, si je me rappelle bien, Mail, il y avait des problèmes du moteur qui était... Donc, ça, ils ont fait la réparation du moteur. Non, mais sur les pièces qui manquent, chaque fois, ça dure un temps fou. Donc, dans le groupe de travail, à un moment donné, on a fait un peu l'état des lieux dans certains bâtiments où ces pannes d'ascenseur existaient, de qui vivait là. Et notamment, les mamans avec des enfants, des bébés, des personnes malades.
Et personnes âgées aussi.
Nos collègues connaissent bien les gens qui sont là, handicapés. C'est... Les personnels soignants qui ne montaient plus dans les appartements... pour aller faire les soins. On a eu une rencontre avec nos amis de Sète, que vous connaissez, qui sont venus pour partager avec nous un peu ce diagnostic, et en disant, de toute façon, il y a une obligation de soins. Donc nous, il suffit qu'on contacte l'ARS pour dire, parce qu'on ne peut pas être concurrent, et en disant, puisqu'il n'y a pas de soins à domicile, on va monter nous, voir les personnes qui sont malades. Mais ça, pareil, ils ne peuvent pas le faire de façon permanente. Donc c'est des actions ponctuelles. Et c'est pareil sur les courses. On s'est retourné vers les institutions dans le groupe de travail en disant il faut aujourd'hui que vous assuriez le minimum de confort, entre guillemets, pour les gens, pour les habitants de ces immeubles. Donc la ville, sur notre demande, a pris en charge pendant un moment le portage.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils ont financé sur un service le fait qu'il y ait des personnes qui soient en bas de l'immeuble et qui montent les courses, aident les mamans à monter les poussettes, etc. Ça s'est fait sur combien de temps, Amel ?
3-4 mois, je pense.
3 mois.
Ouais. avec l'aide aussi des médiateurs qui signalaient, ou des habitants qui étaient là, les familles étant vraiment dans le besoin. Donc ça a bien fonctionné, et puis surtout ça a permis de dire aussi aux habitants, on prend en compte votre souffrance. Oui. Et l'indignité dans la... Mais ça s'est arrêté.
Ça s'est arrêté, oui, aussi.
Ça s'est arrêté parce que la personne dans le groupe de travail nous a dit on n'a pas vocation à ça, donc on l'a fait ponctuellement, mais on ne peut pas le faire. Donc là, on repart au créneau pour demander à nouveau que sur les bâtiments, il y ait un service. Voilà. Comme disait Yannick, la réunion où le nouveau ministre est venu, M. Grandjean, je crois, qu'on a
Jean
eu Brun. À la Morolette.
Jean-Brun.
Jean-Jean, c'est ça
Jean-Brun,
tu vois. Là aussi, ça a été de la part de tous les élus présents, en gros, la déclaration que c'était pas possible que ça fonctionne comme ça, que c'était, etc. Mais après, il y a une absence de vis-à-vis, c'est-à-dire les techniciens qui sont là, ils disent ils vont remonter, mais on n'a plus du tout ce vis-à-vis qui permet de dire là, on va remettre en place un service de portage, tant que ça coûte du fric à la collectivité, tant pis. Ouais. C'est un minimum de ce qu'on
peut
faire.
Oui, ça, c'est comme l'attribution des réparations des ascenseurs.
Ouais.
Moi, j'ai ce problème qui me vient toujours en tête, pourquoi on n'achète pas français?
Oui.
Comme ça, on ne va pas chercher les pièces en Allemagne ou en Autriche. Voilà.
Pour acheter français, il faudrait qu'on change
le micro.
Voilà,
français, il faudrait changer les ascenseurs.
Oui, mais
c'est-à-dire qu'il y a 150, au minimum 150, presque un million d'euros. Presque un million d'euros par ascenseur.
Oui.
Donc là, il n'y a pas question.
Mais après, d'un long moment, on ne s'occupera plus des ascenseurs. On s'occupera d'autres choses.
En 20 ans, oui.
Voilà. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un calcul.
Ces alertes sur les ascenseurs, ça ne vient pas que d'ici. Ça vient de partout en France. Et donc, l'année dernière, nous, on a fait remonter tout ce problème. Et je ne me rappelle plus, elle était ministre de quoi, Juliette Méadel ?
On en a reçu des ministres quand même.
Hein. Ah ouais, elle nous a dit, écoutez, on va faire une proposition de projet de loi pour imposer aux ascensoristes d'avoir un stock de pièces détachées.
Tout à fait.
Non, ils toujours pas.
Toujours pas. Dans les voitures.
Ça n'a pas été voté.
Madame Galli avait dit à une réunion, on va peut-être pas citer les élus, mais elle avait dit, je propose qu'il y ait une forme de magasinage dans les collectivités pour stocker des pièces.
Oui, il faut
C'est-à-dire qu'on puisse les avoir en amont et du coup pouvoir faire les réparations.
Mais il faut des ascenseurs standards.
Alors, il y a ça.
Voilà, il faudra tous les mêmes. Parce que sinon, vu la diversité, vous ne pourrez pas.
Et le fait que le projet de loi national qui avait été déposé par des députés, c'était que chaque fois qu'un ascensoriste ne fait pas le travail, il soit pénalisé par journée où c'est pas fait. Et donc ça, on s'est dit, ils vont toucher au porte-monnaie, à mon avis, ça va le faire. Sauf que pendant ce qui a suivi, on faisait le constat avec Amel que on a parlé de cette loi, y compris dans les médias, donc on s'est dit, ils doivent avoir peur de ça. Et en fait, elle me disait, mais en fait, ils viennent, des fois. Ils viennent, ils restent en bas, et après, ils s'en vont. Ouais. Donc en gros, on a fait une action, donc on n'a pas à être pénalisé.
On a filmé, on a pris des photos.
Mais ça, c'est comme les réunions des ministres et tout.
Oui.
À mon avis, vous devriez les faire au dernier étage de l'immeuble.
C'est ça.
Voilà.
Et
les faire monter pour discuter, plutôt que de discuter en bas dans le couloir. Vous choisissez chez quelqu'un. Et faire une réunion chez cette personne. Voilà.
Alors c'est peut-être, mais les problèmes des ascensoristes, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'ils viennent souvent quand il n'y a pas les gardiens, entre midi et deux. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. On ne sait jamais ce qu'ils ont fait. Et on n'a pas de compte-rendu de ce qu'ils ont fait. C'est terrible. Quelque part, j'ai peur de le dire, mais c'est une véritable mafia. Hein.
Non, c'est vrai. C'est parce qu'ils viennent, ils mettent l'ascenseur à l'arrêt. Pour un bout de temps, il y avait un petit vis. Ils bloquent l'ascenseur pour monter et descendre. Il n'y a que ça. Il y a des étages, c'était que ça. Eh bien, ils le mettent à l'arrêt, ils partent et rentrent chez eux. Et on reste 2 mois, 3 mois sans ascenseur. Et un bâtiment, ça fait 1 an maintenant.
Continuons à nous intéresser à l'humain de Maille. À savoir, la question, c'est quelle est une journée type, par exemple, pour vous qui vivez au Maille? Quels sont les moments les plus difficiles et à quel moment y a-t-il ce basculement à un moment donné au niveau de cette dégradation, d'une part. Et d'autre part, moi, ma question, c'est la caractéristique de ma ou d'autres copropriétés, c'est par bâtiment qu'il y a des syndics. Et pourquoi cela? Dites-moi. Parce que c'est un signe de dégradation aussi d'une copropriété, un des facteurs.
En vrai, la difficulté première, c'est qu'on a des charges qui ont augmenté terriblement et des résultats qui sont inexistants. C'est-à-dire que quand on payait 150 euros de charges par mois, ce qui était une belle somme, elles ont été doublées à cause de tous les problèmes. Hein, elles ont été doublées, mais par contre, nous, on n'en voit pas. Finalement, on ne voit rien de changer. Les ascenseurs ne marchent pas, et c'est toujours aussi sale. Il y a des infiltrations, elles ne sont pas réparées. Ah oui, mais il faut attendre, parce que ça, c'est compris dans le plan de sauvegarde, mais il faut que les architectes viennent pour voir si on peut faire ci ou si on peut faire là. Il faut trouver après. Parce que, voilà, c'est toujours ça. Il faut, une fois que les architectes seront venus et qu'ils auront défini, il faudra trouver la société qui va la faire. Donc on va faire un appel d'offres. Et pendant ce temps, vous avez des appartements qui se dégradent au fur et à mesure parce qu'il y a des infiltrations.
Mais voilà. Quand on entend ça, la question c'est quel est le rôle et la place des assurances dans tout ça ?
Il n'y a pas d'assurance.
Assurance
soit du syndic, normalement.
Le syndic, il n'y a pas d'assurance.
Il devrait avoir une assurance. De cette façon-là, quoi. Quand il y a des infiltrations.
Je suppose qu'il y a une assurance. En tout cas, avant, il y avait une assurance. Comme ils ne peuvent pas payer des sommes énormes d'assurance, les remboursements des assurances sont minimes. Donc, s'il y a 20 000 euros de réparation à faire sur un truc et que l'assurance vous couvre sur 3 000 euros, inutile de vous dire que la réparation ne sera pas faite. Alors, ce sera un mouchage. Quoi.
Oui, parce que c'est comme les voitures. Tant qu'elles sont neuves, elles sont garanties. Et puis, quand il y a un petit peu de kilométrage, la garantie est finie. Et les assurances, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que y a ce processus, mais on baisse, disons, on prend des assurances moins élevées qui couvrent moins de sinistres. En fait, après, ça vient juste s'il y a une tempête.
C'est parce qu'on n'a pas les moyens non plus de payer
une super assurance élevée, très élevée. Oui.
Une assurance costaud pour une cité, pour une copropriété comme le Mail. J'en sais rien.
Là où on parle du Grand Mail, des 400 logements.
Je passe aux 400.
Non, mais parce qu'il y a deux syndics qui marchent bien, c'est au gardien. Et OG, c'est deux syndics.
Oui, il y a les syndics.
Là, ça marche.
Ça marche chez eux, et qu'est-ce que ça marche,
Pourquoi ça marche là
Le gardien, ils n'ont pas de dette, effectivement. Il faut voir l'état de l'immeuble.
Ils commencent.
Il est
même squatté. Il y avait un appartement d'un médecin qui s'est squatté.
Ils ont abandonné le côté
au gardien.
Voilà, ouais. C'est-à-dire il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge énorme parce qu'il n'y a pas de réparation de fait, en fait. Ils ont changé les ascenseurs quand même. Là, ils ont les ascenseurs tout neufs. Sauf que si vous déambulez dans les escaliers, ça n'a pas été touché depuis 40 ans, quoi, ou 50 ans. La raison qui fait qu'il n'y a pas de... Effectivement, il n'y a pas de dette.
Mais l'intérieur du bâtiment est beaucoup moins dégradé qu'au Grand A. Au gardien, c'est moins dégradé. À l'intérieur.
Mais il faut monter dans les étages.
Il faut rester
en bas. Effectivement, tout est bien propre en bas, avec des ascenseurs neufs. Mais après, il faut prendre les escaliers, il faut monter.
Mais les appartements eux-mêmes.
Ah, les appartements, moi, je ne les ai pas vus. Moi, je vais chez Montoubib, c'est tout. Hein.
Donc, la configuration, il aurait fallu qu'on puisse voir la configuration de la copropriété du Mail. Bon, malheureusement, ce n'est pas la télévision, donc ce n'est qu'une radio, à minima. Parce qu'à l'heure tourne, et bientôt, l'émission touchera sa fin. Donc, la question, à savoir, tant à Mel qu'à Yannick, qu'est-ce qui vous met le plus en colère ?
Qu'est-ce qui
nous
met le plus
en colère, oui. Tout. Amel, exprime-toi.
Vas-y, Amel. Moi, franchement, ça fait des années, ça fait presque 40 ans que j'habite là-bas. Et je suis bien. Depuis quelques temps, depuis, on va dire, quelques années, que ma santé, elle a commencé. Une fois, j'ai eu un tir chez moi, une balle. J'ai dit peut-être. Mes enfants, ils me disent, pourquoi tu appelles la police déjà ? quand j'ai appelé mes enfants, le premier que j'ai appelé, c'est mes enfants. Ils sont venus, j'ai dit, il faut appeler la police. Ils me disent, pourquoi ? Il ne sert à rien, déjà de un. Après, moi, j'ai resté derrière eux, ils ont appelé la police, et c'est vrai, j'ai découvert que ça ne servait à rien. Petit à petit, j'avais des dettes, parce que j'ai perdu mon mari, j'avais 4 enfants. Je suis partie plusieurs fois parler avec eux pour avoir un échéancier et tout ça. À chaque fois que j'ai un échéancier, je vois les charges, ça augmente. Ça ne s'arrête pas, ça augmente. J'ai essayé, après j'ai abandonné, ça a augmenté. J'ai décidé de vendre mon appartement. J'ai vendu mon appartement. Quand j'ai trouvé la personne et elle me disait de rester dedans, ça m'a fait plaisir. Mais là, franchement, je me sens abandonnée. Que moi, j'ai l'habitude de sortir. Je venais n'importe quelle heure, je rentre chez moi. Je suis chez mes enfants, mes amis, ma famille. Là, il faut que 6h, 7h, pas plus, je rentre chez moi. Je ne peux plus rester plus parce que déjà, les places pour les voitures, on n'arrive pas à trouver des places. Il me faut une voiture devant. Peut-être, je vais me dire que... Mais comme je sais que je ne trouve pas, je me permets d'aller me garer ailleurs et venir à pied jusqu'à mon immeuble. Ça, c'est impossible pour moi. Depuis quelque temps, j'étais harcelée aussi, suivie. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne faisais rien du tout. Et là, franchement, on se sent abandonné par tout le monde. Ils venaient, les institutions, on ne va pas dire non, ils ne venaient pas. Ils sont là, avec leurs paroles, oui, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est ça, le problème, c'est ça, le problème. Après, à peine, ils sortent, ça y est, il n'y a plus rien. Pas de nouvelles. Ils nous promettent des réunions pour parler, pour nous apporter des solutions. On ne les trouve plus. On essaye, mais il n'y a rien. Quand on les appelle pour avoir, par exemple, le syndic, elle ne répond plus. C'est pour elle. Les locataires, ils n'ont pas le droit de parler. Pourtant, moi, je trouve que les locataires, ils payent comme tout le monde. Ils payent les charges. L'ascenseur, ils montent dans l'ascenseur. Je ne vois pas pourquoi je paye mes charges. Et je suis abandonnée, je ne peux pas monter ou descendre. À un moment, je suis rentrée. Je ne suis pas restée parce que j'ai failli devenir folle. Rester 15 jours dans l'appartement, je ne bougeais pas parce que l'ascenseur elle est resté en panne. Je suis partie chez mon fils 4 mois. Je suis restée chez mon fils. Mais on se sent... Pour moi, si j'arrive pas à me décider à 100%, j'aimerais bien trouver un appartement partir.
Oui, merci Amel pour ton coup de gueule. Hein. Oui. C'est ainsi qu'on pourrait aussi qualifier ton intervention. Nous allons donner la parole à Yannick aussi, comme témoignage.
Une précision, ce n'est pas un syndic, c'est un administrateur judiciaire. C'est-à-dire c'est totalement différent. Il n'a pas de compte à rendre. Tant que la...
Voilà, il a... Le syndic a démissionné.
Voilà, ils n'ont pas démissionné. Ils ont démissionné. Donc c'est un administrateur judiciaire. Alors effectivement, le contact n'est pas toujours très bon. Mais ils ne sont pas, malheureusement, mais c'est, je suis d'accord, ils ne sont pas obligés de nous rendre des comptes.
Alors, ils vont à l'essentiel.
Ils vont à l'essentiel. Voilà, a priori, ils sont censés aller à l'essentiel. Après, ils ont certainement des difficultés. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème de communication.
Pardon ? C'est un genre de mise sous tutelle.
C'est ça.
Totalement.
Ils règlent les problèmes principaux, ils jugent eux-mêmes les charges. Après, c'est décroissant le chauffage ou l'électricité, etc.
Voilà. Après, il y a le côté technique. Voilà. Après, moi, j'ai pas à dire du mal, parce qu'a priori, le côté technique, M. Carvalho, en l'occurrence, qui s'en occupe, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, parce que quand il est confronté au même problème que nous, avec un ascensoriste ou avec je sais pas, avec toutes les sociétés qui s'occupent. Bon, mais il y a un problème réel, c'est vrai. Amel a raison quand elle dit il y a un problème de communication. On a beaucoup de mal à avoir. C'est très sec. Et effectivement, comme disait Anne-Marie, il est arrivé une fois qu'on a répondu à un copropriétaire qu'est-ce que vous venez ouvrir votre bouche alors que vous devez d'argent?
Vous ne payez pas les charges.
C'est ça le problème. Il n'y a aucun accompagnement social.
On ne le fait pas.
Oui.
On ne le fait pas.
Donc, voilà.
Donc c'est un problème de communication. Mais sinon, bon, maintenant, ce qui m'énerve, moi, c'est de payer autant de charges tous les mois et de ne pas en avoir de bénéfices.
Oui.
Voilà, c'est surtout ça. Et de ne pas savoir exactement quand les choses seront faites. C'est-à-dire que même quand je pose les questions...
Pas ta réponse.
On n'a pas une vraie réponse. Et à l'heure actuelle, on attend toujours pour ce plan, ce fameux plan Cordine, on a une épée de Damoclès sur la tête, hein, nous les copropriétaires. On ne sait absolument pas. Il a été voté. Là, il n'y a pas à tortiller. Il ira jusqu'au bout.
La convention a été votée.
Voilà, la convention a été votée, donc il ira jusqu'au bout.
Il n'y a rien d'élaboré. Le projet n'est pas élaboré.
En fait, il n'y a rien de concret. D'accord. Vous ne savez même pas si... moi, si j'ai de la peinture à refaire chez moi, par exemple, je ne vais pas la refaire, parce que demain, je ne suis plus copropriétaire. Mais qu'on nous tienne au courant. Donc, au jour le jour.
Donc, dans vos propos, dès le début de l'émission, même si nous n'avons pas abordé la question de l'insécurité, de ce sentiment d'insécurité qui est latent, il y a d'autres médias qui s'en chargent largement, qui viennent couvrir la télévision, certains magazines que je ne nommerai pas, entre autres qui viennent, pour faire un coup en disant voilà ce qui se passe dans telle copropriété, le mail, etc. Vous le savez. Donc, nous ne sommes pas là, nous savons que cela existe. Moi, la question que je me pose, c'est à savoir qu'est-ce qui vous fait tenir en fait? La famille? Les voisins? La solidarité? Alors qu'est-ce qui vous fait tenir?
Amel? Il y a beaucoup de choses qui me font tenir. Je ne sais pas si vous avez vu les appartements du Mail. Ouais. Mais moi j'habite le bâtiment E, j'ai une vue de Notre-Dame-de-la-Garde aux Robes.
Donc Yannick, chaque fois que tu te retournes vers... tu implores la Vierge Marie, la Dame de la Garde.
Non, mais j'ai une vue magnifique. Non, il y a des appartements qui... les appartements sont beaux et bien faits.
Bien faits, ouais.
Bon, après, il y a de l'entretien, c'est sûr, et qu'il faut les entretenir. Mais honnêtement, entre la vue qu'on a... parce qu'il y a des gens... il y a des Parisiens qui paieraient des fortunes pour avoir la vue qu'on a.
Mais parce que tu es en hauteur.
Parce que je suis au cinquième étage.
Cinquième. Sur combien?
Sur 15.
Ah bon, ben parce que la prochaine réunion, on le fait au 15e. Quand il y a le ministre.
La prochaine fois, on amène.
Et sans ascenseur. Et si l'ascenseur marche, on le bloque quelque part et puis.
Non, mais c'est vrai, mais voilà, on a quand même une. Bon, après, l'insécurité, moi je le comprends pour des femmes seules. Moi je la sens pas trop parce que nous, on est dans le bâtiment E, on est quand même dans un bâtiment qui est relativement protégé. Maintenant, ceux qui habitent sur l'intérieur.
C'est un petit peu ma chose que je veux dire, mais c'est vrai. Quand t'es en com, on sent un peu. Moi, je vois, j'ai une femme, trois filles. C'est vrai, c'est toujours une qui me dit j'ai vu ci, j'ai vu ça. Voilà. Moi, je dis ça, j'ai pas vu. Elle me dit je descends la canne de bière la nuit à 1h du matin. Pour moi, c'est rien. Et elle me dit mais à 10h, il y avait des tas de jeunes qui étaient là, qui zonnaient. J'ai eu peur, j'ai pris un taxi. Oh, nous, on le sent mal. Et on le sent moins, je pense. Hein, c'est...
Voilà, mais après, il y a le fait qu'on le sente moins. Non, mais moi, quand même, je suis sensible à ce genre de truc. Hein. Mmh. C'est-à-dire que l'autre jour, j'ai voulu prendre le métro, il y avait un tas de SDF avec des chiens. J'ai dit, si je le prends à 10h, qu'un chien me saute dessus et qu'ils sont avinés, je vais me faire massacrer. Hein. Donc, on en est tous là. Mais moi, j'avoue que j'ai pas ce sentiment d'insécurité dans le bâtiment où on est. Je suis bien conscient de ce que je dis. C'est-à-dire, entre mon bâtiment, le bâtiment... celui qui a le petit là.
Non,
celui...
le
D. Voilà. On est dans un coin qui est à peu près qui est à peu près bien. Après tout ce qui se passe derrière, effectivement, moi je sais même pas où il est le bâtiment. Hein. Ça fait 40 ans que j'y habite. Mmh. Je sais pas où il est. Parce que j'y ai jamais mis les pieds.
Enfin, moi tous les jours, je pense à ce qui s'est passé il y a quelques années au Flamand, où il a fallu 3 ou 4 morts pour que les choses changent, que les gens soient relogés en vitesse. En une semaine, ils avaient pris des décisions. Et là, moi, je suis en colère par la situation, mais j'ai très, très peur qu'il arrive un drame au bâtiment A ou au bâtiment B.
Mais je suis désolé, Jean-Michel.
Oui,
déjà arrivé avec Henriette qui s'est fait poignarder, Monsieur Diallo qui s'est fait poignarder, le meurtre qu'il y a eu à côté de, du snack, qui est à côté de la pharmacie. Non, il y avait plusieurs trucs qu'il y a eu. Ils sont venus mitrailler avec le mitraille. Dans ma vie, c'est la première fois que j'étais par la fenêtre, je tremblais tout seul.
Il faudra attendre un drame pour que les choses changent.
Il y a des drames, mais ils n'ont rien fait. Henriette qui s'est fait poignarder, combien de temps pour la faire sortir de là-bas?
Essayons de terminer l'émission sur note positive. Donc, on arrive. Non, d'accord, ça c'est un message que j'entends. C'est grâce à la mobilisation qu'il y a des habitants ou bien des uns, des autres, même extérieurs, qui viennent. Cela vous permet de tenir. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Parce que c'est la question que je posais en amont et j'aimerais bien savoir un peu. Donc, et comment exprimer cette mobilisation? Amel, tout à l'heure, tu parlais que tu as créé une association. Est-ce que c'est à travers ces associations, ces différents mouvements, que cela permet de se sentir un peu moins seul et de dire nous allons peut-être arriver à tenir encore quelques années, ne serait-ce que pour les enfants, parce que la question qui se pose aussi derrière tout ça, et les enfants, comment vivent-ils ces situations?
Non, j'ai créé l'association, c'est vrai, en 2024, ça fait pas longtemps, mais presque depuis que j'habite ici au Mail, j'ai été toujours bénévole dans les associations, toujours. Soit pas délégué de parents d'élèves, dans les primaires, dans le collège, dans les associations, j'étais toujours bénévole. Mais c'est de là peut-être que elle est restée. Et je suis restée, je faisais le bénévolat jusqu'à maintenant. Après, quand on a vu le Mail, ils sont abandonnés parce qu'on n'a pas un terrain de jeu pour les enfants. Le jardin, il s'est dégradé. Déjà, il y a les propriétaires, ils ne veulent plus qu'on fait le jardin parce qu'ils font trop de bruit. Et il y a aussi des jeunes qui viennent faire le barbecue, la musique à fond et tout ça. Ils nous demandent de ne pas le faire, c'est mieux de le raser. Le stade à côté, on n'a rien du tout. Ils nous ont mis le primaire préfabriqué et ils ont enlevé parce qu'on a maintenant un beau école là-bas, le primaire qu'ils nous ont fait. Mais le stade, il est plein de clous. Ils nous ont laissé avec les câbles électriques. Il est dégradé et les petits jouaient. Et il n'y a personne, on a appelé tout le monde. Même maintenant, je sais que c'est la mairie centrale et la mairie secteur. On a appelé pour voir, on attend s'il y a une intervention ou pas. Je l'ai appelé cette semaine. Et là, on attend encore. Tenir, franchement, je ne sais pas. Je suis en train de tenir. Pour le moment, je tiens jusqu'au jour où... Oui. De temps en temps, j'abandonne. Je reste chez moi 2-3 jours, je ne sors pas, je suis abandonnée. Je dis, allez, c'est bon, laisse-moi tranquille. Mais après, je me dis, non, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas laisser. Quand je vois les gens...
Je me rappelle... Je me rappelle une des premières associations dont je parlais tout à l'heure à Hama. Le slogan, c'était... Nous ne paierons plus pour nos tombes. Mmh. Voilà, c'était. Je me rappelle, devant la mairie centrale, il y avait un mât de bateau avec écrit ça.
Et on a du coup été reçu en urgence derrière par l'élu au logement indigne, à la ville et par le préfet. Parce qu'on a eu une rencontre mémorable avec M. Carrier à ce moment-là. Depuis, on n'a pas trop eu les mêmes poignes. Mais oui, il y a eu cette association, mais il y a eu. Et qui a mis l'éclairage en fait. Et quand, je dirais, nous-mêmes, qui habituons pas le Mail, au moment où l'éclairage a été mis par cette association, que les pouvoirs publics nous ont réunis, etc., on a découvert l'ampleur du problème. On parlait tout à l'heure des charges. On a découvert les chiffres. On savait qu'il y avait eu des plans de sauvegarde. On s'est dit, mais où est passé l'argent? À quoi ça a servi? Mais en même temps, quand il y a cet éclairage-là et qui a été fait par des habitants, ça permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe en fait. L'anecdote dont Jean-Michel nous parle, c'est pas une anecdote, c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure qu'il était inquiet, c'est qu'en montant dans le bâtiment A, il voit des personnes à un étage où il n'y a pas d'ascenseur, affistolées avec des fils électriques pour mettre en marche l'ascenseur.
Le bouton d'appel, oui.
Enfin, tu te rends compte, c'est grave, ça veut dire que tu peux mettre le feu dans l'immeuble, le 2. Prétendument neuf.
Ouais. Voilà. La situation est tellement violente qu'on ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire, c'est plus fort que nous.
Et l'autre chose, tu parlais de notes positives, c'est quand même qu'il y a eu la construction par la ville de Marseille. L'école de Bessières a été prise en compte dans les plans du plan école. Et donc, il y a une école magnifique. Ouais. Magnifique, vraiment. Tout le monde le reconnaît. Ouais. Au niveau de l'architecture, de l'installation, elle est très belle. Et l'inquiétude, du coup, tout le monde, c'est de voir, de temps en temps, le réseau s'approcher et être devant l'école quasiment pour son business. Et donc, c'est un problème. C'est-à-dire que, du coup, il faut alerter la ville sur le fait, OK, d'avoir des beaux bâtiments, mais en même temps, que les enfants soient bien accueillis. Mais il faut assurer tout ce qu'il faut autour, quoi.
Oui. Oui. Mais justement, merci, cela me tend la perche. Cela me renvoie à la problématique de la crèche de l'œuf qui a été fermée lorsqu'il y a eu la proximité des réseaux aussi à un moment donné. Donc, deux mots, Anne-Marie et Jean-Michel, où en est-on concernant justement la crèche de l'œuf? Même si ce n'est, bon, c'est un peu en lien, puis c'est à proximité aussi de l'ensemble, et c'est le carrefour de l'ensemble.
La crèche de l'œuf, je ne vais pas revenir longtemps
non,
dessus,
sur l'ensemble, mais juste
qu'on a
pour
fait
nous
une émission, mais c'est juste pour dire qu'on y tient. C'est pas parce qu'il y avait une proximité du réseau que la crèche a été fermée.
Mais c'est le prétexte qui a été.
Le prétexte, ça a été la fusillade, et le prétexte qui a été pris par les apprentis d'Auteuil à l'époque, c'est de fermer cette crèche parce qu'ils avaient négocié avec le département un agrément ailleurs, dans des locaux, et ça aussi on l'a découvert quand on a vu les locaux, qui devaient être rénovés. Et donc le gestionnaire s'est échappé pour pouvoir obtenir des trucs ailleurs. Ceci étant dit, ça a mis 7 ans, c'est pour ça que le mail, il ne faut pas lâcher. Ça a mis 7 ans, mais la crèche a rouvert l'année dernière avec le double de lits. C'est-à-dire qu'on est passé de 27 lits à 48.
50 berceaux, pratiquement.
Voilà, 50 berceaux en tout.
Pratiquement.
Que je trouve que l'équipe en place, c'est une équipe Léo Lagrange que nous avons sélectionnée, Amel en faisait partie aussi, dans une commission de recrutement, et a recruté des gens du quartier. Okay. Du coup, parce qu'ils ont tenu compte de ça. Ils ont tenu compte aussi de l'ouverture pour que les familles du quartier puissent avoir accès à la crèche facilement. Et puis c'est une équipe qui nous est assez ouverte. Ils nous ont invités à visiter les locaux
belle.
De la crèche il n'y a pas longtemps. C'était très beau lieu. Voilà. Ouais. Ça me fait penser qu'un de ces quatre, s'il y a une émission à nouveau sur la crèche, je pense que faire venir l'équipe qui y travaille actuellement, ça serait pas mal. Ouais.
Mm-hmm. Comme quoi la lutte paye. C'est ça qui fait te dire.
Je parlerai qu'en présence de mon avocat.
Donc, en une phrase et une seule, qu'aimeriez-vous que les auditeurs retiennent du mail?
Bon. Silence radio, donc c'est dans les silences, oui.
Allez. Les pauvres.
ouais.
Moi, je voudrais que cette opération qui va venir là, de requalification d'intérêt national, que ce projet de requalification soit co-construit avec aussi les habitants, quoi, et qu'on ait notre mot à dire sur... parce que, quand même, le projet qui va avoir le jour, c'est un projet tout à fait nouveau, quoi. Hein. C'est avec tout le financement, c'est massif, quoi. Hein. C'est pas un plan de sauvegarde. Le plan de sauvegarde, c'est vraiment des travaux d'urgence.
Exactement,
là,
oui.
C'est un quartier qui va être remodelé entièrement, quoi.
C'est exactement ça. Oui. 671 millions... d'euros. Quand on pense au montant qui va être investi sur les quatre quartiers, on est bien d'accord. Il faut que ce soit quelque chose de quasiment magnifique. Alors maintenant, s'il y a une chose, c'est que je pense qu'il y a peut-être une volonté de changer le quartier et de faire en sorte que de se débarrasser de tous les habitants et de mettre... parce que de toute façon, effectivement, c'est un endroit qui est quand même assez stratégique et pas trop mal. Donc se dire, on vire tout le monde et peut-être qu'on va créer des résidences beaucoup mieux. Et voilà.
Oui. Oui.
Ça c'est dangereux pour nous.
C'est beau de rêver.
Ça c'est un genre de gentrification. Bon, ce qui se passe un peu partout, on n'a qu'à regarder du côté du marché aux puces au fur et à mesure. On est en train d'éliminer, d'enlever tous les habitants et les repousser au fur et à mesure au sein même des quartiers populaires de plus en plus. C'est ce que l'on peut observer parce que Boulevard Odo c'était très populaire. Et au fur et à mesure, on détruit, on est en train de modifier un peu la configuration,
affaires,
bien sûr.
Il y a le quartier des affaires, voilà. De toute façon, toute la Josiette et tous les trucs. Moi, j'ai connu la Josiette. J'ai travaillé au DOC il y a 30 ou 35 ans. Je vous garantis que les DOC, ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Hein.
Ouais. Donc je pense que dans tout ça, nous pouvons aussi remercier Fabienne, la déléguée auprès de l'égalité des chances par rapport au travail, et qu'elle est très à l'écoute non seulement des acteurs, mais des associations, des habitants. Donc il aurait fallu qu'on puisse la garder un peu plus longtemps, mais bon. Enfin, mais elle est là, elle est très active toujours. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire ? C'est vous dire merci à vous pour vos paroles, pour vos témoignages et surtout votre engagement, parce que ce n'est pas du tout évident sur notre territoire. Ce que l'on retient aujourd'hui, pour moi, avant tout, c'est qu'au-delà des difficultés, il y a des habitants, des solidarités, une mémoire collective et surtout une volonté de ne pas abandonner ce quartier, ni celles et ceux qui y vivent. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, nos invités, que ce soit Amel, Anne-Marie, Yannick et Jean-Michel, d'être présents, parce que ce n'est pas évident, de nous accorder un peu de temps sur votre temps qui peut être aussi précieux. Le Mail n'est pas seulement une copropriété en difficulté, c'est aussi une mémoire collective, des habitants, des solidarités, des luttes et des vies qui refusent d'être invisibilisées. Pour accompagner votre combat, un slam interprété par Grand Corps Malade, Espoir Adapté. Merci pour vous et merci pour tout et à très bientôt. J'espère vous retrouver sur les ondes de Radio Galère et pour les échos du Grand Saint-Barthélemy. Merci beaucoup.
Merci et continuez.
Allez.
Merci
beaucoup. Bah ouais, c'est sûr, c'est la merde. C'est pas trop ça qui était prévu. Nos ambitions sont en berne et notre avenir en garde à vue. Et si c'est vrai que l'intelligence est la capacité d'adaptation, il va falloir la jouer rusée face à certaines situations. Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face, c'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches, trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
Been trying to let it go, been trying to free my soul, but all the friends that I have lost and all the scars that I have left, my body embodies all my sorrows, my bones mirror my own morals, and I don't need nothing more than to feel my heart bounded. I'll hold on to this second chance, I'll breathe.
Espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté c'est faire le deuil de tous les autres, sourire encore ne serait-ce qu'en hommage à tous les nôtres. Ceux qui étaient là qui m'ont porté au propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée.
Dernière partie avec les communiqués. Au centre social Saint-Barthélemy, ex-MFA, on a les ateliers sport femmes le lundi de 14h à 15h30. Les ateliers pétanque ont toujours lieu le mardi après-midi à partir de 17h. L'aide aux devoirs parents-enfants le mercredi matin entre 9h30 et 11h. Les cours de break et de théâtre le mercredi après-midi à partir de 14h30 jusqu'à 16h. Reprise des animations en extérieur de 14h à 16h. Mercredi 13 sur fond vert et mercredi 27 mais à la Benosse. Vide-grenier le vendredi 8 mai, s'il y a assez d'exposants. La prochaine soirée sera une soirée karaoké dont la date reste encore à définir. Passons sur Planète Émergence et Atout. Tu vis dans le 14e arrondissement de Marseille et tu as entre 18 et 25 ans. Part à la découverte des métiers de la navigation. 10 jeunes seront sélectionnés pour 2 demi-journées en mer, puis 6 d'entre eux pour une traversée en voilier de la Corse à la Sardaigne, du 13 au 18 juillet. Une aventure gratuite, mais exigeante et engagée, où tu deviendras ambassadeur, ambassadrice d'un projet culturel et raconteras ton aventure à travers des créations sonores. Tu as jusqu'au 3 mai pour nous écrire tes motivations à public au pluriel @planèteémergence.org. Passons au ZEF, Scène nationale de Marseille. Du mardi 5 au mercredi 6 mai, théâtre, musique, qui m'appelle? C'est en entendant notre prénom, puis notre nom, que nous entrons dans la langue. Deux mots qui deviennent notre musique fondamentale, à partir d'une étonnante homonymie avec une architecte, la musicienne et metteuse en scène Maguelone Vidal, imagine un spectacle malicieux et sensible. Le duo interroge nos noms, leur histoire et les résonances qu'ils portent. Tandis qu'un cœur mêle dans Grégorien... Pardon. Tandis qu'un cœur mêle chant grégorien, beatbox et hip-hop, une création singulière, inventive et jubilatoire. Vendredi 12 juin à 19h, musique parade, concert pour chœur d'enfants et orchestre. Le club orchestre, le chœur, la maîtrise et l'orchestre à l'école de la Busserine, accompagné de l'ensemble Ses Barrés, ainsi que les compositeurs-compositrices Amine Soufari, Mehdi Telaoui, Jean-Christophe Marty et Mila Bellier. Vous invite sur le plateau du ZEF pour un concert festif autour de créations musicales inédites, spécialement commandées pour cette deuxième année de pratique artistique collective. Passons à la librairie Transit, 51 Boulevard de la Libération, dans le premier à Marseille. Jeudi 30 avril à 19h, présentation de Les Bijoutiers de la Houma, une histoire potentielle du monde juif musulman avec Ariel Aïcha Azoulay. Les échos du Grand Saint-Barthélemy touchent à sa fin. Nous remercions nos invités, notre ami Sidi pour la technique, ainsi que la politique de la ville et métropole. Au mois prochain pour une nouvelle émission.
Merci, merci Sidi. Et musique, Stromae, Ave Césaria.
José, ça fonctionne comment cette caméra?
Tu tiens bien comme ça? Voilà, la voix de la boîte.
Ah, le musicien est en retard.
Attends.
Le musicien est en retard, ça c'est pas bon. Ah, regarde les enfants là qui courent. Là. Regarde, il fait encore.
Les effluves de rhum dans ta voix me font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts. Comme tes cigarettes, immobiles, comme à ton habitude. Mais es-tu devenu muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, et voilà. Si tu ne m'aimes plus encore,
et voilà, et voilà.
Après tant d'années,
et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça,
et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr, c'est sûr, ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre. Et surtout à moi, pourquoi moi? Alors que les autres t'es trouvé bien trop laide. Peut-être que moi je suis trop bête. Mais je sais t'écouter.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou pas?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà,
c'est sûr.
Et voilà.
pied, nu est et nu était, qui va au pied nu restera.
Et à vie,
ses aléas, et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigade, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde.
À vous,
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, à tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu.
Sacré,
Césaria, quelle belle leçon d'humilité.